Bon, bah, du coup, bonjour Boudère. Donc, on est l'atelier médias du Collège Jules Vallès. On va vous poser quelques petites questions sur votre prochain spectacle, du coup, qui portera sur l'école et sur vous, votre parcours professionnel, etc. C'est bon ?
Allez, on y va.
Eh bien, c'est parti.
Bonjour. Je voulais savoir si le trac vous envahit encore avant un spectacle et si oui, comment vous le gérez ?
Alors, j'ai pas bien entendu la question.
Est-ce que vous avez le trac et si oui, comment vous le gérez ?
Alors, est-ce que j'ai le trac ? Moi, j'ai jamais le trac. Par simple. Quand je parle, je m'entends, donc c'est pas facile. Je sais pas si on peut régler ce truc ou pas. Ouais, là, c'est bon normalement. En fait, moi, j'ai jamais le trac. Le seul truc que j'ai avant de monter sur scène, c'est la peur de la salle vide. Parce que quand j'ai commencé, il n'y avait personne dans des salles. Et c'est assez perturbant. Donc moi, le trac, j'ai jamais eu le trac, non.
Ok, merci.
Bonjour.
Bonjour.
As-tu des souvenirs de tes premiers shows ? Est-ce que tu as une date qui t'a particulièrement marqué ou des anecdotes à nous raconter ?
Ah, j'en ai une qui est assez rigolote, mais à vivre, elle est compliquée. Un jour, je devais commencer un spectacle. Le rideau s'est ouvert et il n'y avait que 8 personnes. Il y avait 8 personnes dans une salle de 300. Alors, je peux vous dire que ça fait,
fait
beaucoup de place pour les 8 personnes. Et dans les 8 personnes, il y en a 6 qui se sont trompées de salle. Et les deux qui restaient, c'était des gens de ma famille.
Au moins, ils sont là pour vous soutenir.
Au moins, ils sont là pour moi. Et donc, quand on vit, quand on a vécu ce genre de soirée, il n'y a rien qui peut nous arriver derrière.
D'accord, très
bien. Parce que c'est vrai que quand le rideau s'ouvre et qu'il n'y a personne, ça remet en question un petit peu. On se pose la question de est-ce que je suis fait pour ce métier ou pas ?
C'est sûr.
Et après, à force de persévérance et de travail, bah aujourd'hui, forcément, je savoure le fait qu'il y ait du monde dans les salles.
Est-ce qu'il est facile de concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale, notamment lors d'une tournée ?
Bah, écoutez, j'ai compris... depuis 25 ans que je fais ça, j'ai compris le mot de notoriété. C'est-à-dire qu'il faut le comprendre, il faut l'accepter. Il faut accepter que quand on sort de chez soi, on ne s'appartient plus, on appartient aux gens. Il faut accepter de faire des photos avec tout le monde, parce que les gens qui demandent des photos, ce n'est que de l'amour, et c'est des gens qui, quand ils sont dans des salles, moi je suis très content de savoir qu'ils sont là. Donc la meilleure des manières, c'est de leur rendre cette gentillesse en faisant des photos, des dédicaces. Jamais eu de problème avec ça. Aujourd'hui, moi qui ai compris ce métier-là et la notoriété, j'arrive à jongler avec ma vie privée. Et donc c'est vrai que j'essaie tant bien que mal, de rentrer dormir à la maison après un spectacle.
Ok.
Est-ce que l'humour, ça... Il y a double appel. Double appel.
Oui ?
Non, on continue, Boudard, on continue.
Allez.
Alors, est-ce que l'humour, ça a toujours été votre passion ou vous vous êtes dit un peu plus tard que c'était sûr que vous alliez faire ça ?
Alors moi, au départ, non, je ne voulais pas du tout être comédien. Hein. J'étais à des années-lumière de ce métier et de ce milieu-là. Moi, je voulais être comptable, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait des études de compta. J'ai pas trouvé de travail en comptabilité. Ensuite, j'ai été éducateur de rue. Je me suis occupé de jeunes en difficulté. Pareil, j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai pas vu d'évolution. Et en parallèle, je faisais du théâtre d'improvisation, où je m'amusais avec des amis à faire rire. Et quand j'ai vraiment pris conscience que faire rire c'est un métier et qu'on peut gagner de l'argent et on peut en vivre, je me suis dit, bon, vu que la compta ça n'a pas marché et qu'éducateur ça commençait à être trop long, qu'il n'y avait pas d'évolution, Là, je vais me lancer corps et âme dans ce milieu.
Ah,
voilà,
oui.
Quand j'ai atterri, moi, dans la comédie.
J'avais vu une interview de vous qui disait que vous étiez vraiment très fort en vanne. Donc peut-être que vous avez pris...
C'est clair que le fait d'avoir de la répartie, d'avoir ce don, parce que c'est un don au départ, hein. Et après ça se travaille, hein, comme chaque chose. Tout le monde a un don, je pense. Tout le monde doit le trouver, doit savoir ce qu'il a comme don. Et après ça se travaille. Donc forcément, oui, au départ, j'étais quelqu'un de... J'ai toujours été rigolo, j'ai toujours fait rire... J'ai toujours fait rire des gens que je connaissais. Et forcément, quand on fréquente quelqu'un toute une année dans une salle de classe, par exemple, bah, on se connaît de plus en plus, et puis les vannes arrivent plus facilement, et voilà. Ce qui est plus dur à faire, c'est de faire rire des gens qui ne nous connaissent pas. Et quand un soir, j'ai fait rire des gens que je ne connaissais pas, bah, ça m'a donné cette adrénaline de vouloir faire rire les gens.
D'accord.
Bonjour Boudère, on va parler du spectacle un peu plus en détail. Donc tu consacres un spectacle à l'école, c'est un sujet qui nous touche à tous, on est tous passés par l'école. J'ai envie de te demander avant tout comment était le jeune élève Boudère dans sa tendre enfance.
J'ai pas bien entendu la fin.
Mais, t'étais quel type d'élève en fait, puisque tu consacres à l'école, j'imagine que t'en parles dans le spectacle. Est-ce que tu peux nous dire le type d'élève que tu étais?
Ah bah moi j'étais un élève... J'étais assez rigolo, je faisais beaucoup le clown. J'avais 11 de moyenne, ça me suffisait amplement. Ça agaçait beaucoup mes professeurs parce qu'ils pensaient, peut-être à juste titre, hein, que je pouvais avoir plus de bonnes notes si j'étais concentré, si j'étais moins bavard, si j'étais moins dissipé. Donc voilà le type d'élève que j'étais.
Bon, en gros, le message que tu donnes à mes élèves, c'est de ne pas se contenter de 11 de moyenne quand on peut aller plus haut.
Oui, oui. Attendez, après... oui, oui. Aujourd'hui je l'explique dans mon spectacle. Hein, c'est un peu plus facile parce qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider à comprendre et à faire nos devoirs. Aujourd'hui, moi, j'ai un enfant de 14 ans. À part la flemme... Je vois pas ce qui vous empêche d'aller, de quand vous rentrez à la maison, de taper le nom de la leçon sur YouTube ou sur ChatGPT et il vous explique la leçon autrement. Et quoi qu'il arrive, vous arrivez à comprendre ce que vous faites. Donc, à part la flemme d'aller sur YouTube pour recomprendre la leçon, moi, j'avais pas ça. Moi, quand je comprenais pas la leçon et que je rentrais chez moi, c'était compliqué, il fallait trouver un adulte qui me réexplique, enfin voilà quoi, c'était compliqué. Aujourd'hui, vous avez tous des smartphones, enfin je pense, que vous utilisez pour Snapchat et compagnie, c'est bien aussi, mais il faut aussi apprendre à utiliser son téléphone pour comprendre les leçons que vous faites, pour comprendre les devoirs que vous avez, pour comprendre ce que vous faites à l'école. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un plus aujourd'hui, que nous, on n'avait pas avant. C'est des outils qu'on n'avait pas, nous, avant.
Ok.
Moi, je voulais vous poser la question, pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait, il y a plein de sujets et je voulais savoir pourquoi ce sujet.
Alors, pourquoi ce sujet? Parce que déjà, bon, à chaque fois que j'écris un spectacle ou que j'écris un film ou que j'écris un projet artistique, je pense d'abord à rassembler les gens de tout âge, de toute origine, de toute culture, de tout milieu social. Et le thème de l'école est un thème universel. Tout le monde a été à l'école dans sa vie. Longtemps ou pas longtemps, ça c'est un autre débat. Mais tout le monde a été au moins en primaire et un peu au collège dans sa vie. Donc forcément, ça parle à tout le monde. Et pourquoi ce thème-là? C'est parce que, pour tout vous dire, je suis tombé sur un papa qui m'avait rencontré dans le train, qui m'avait demandé une photo. Donc j'ai fait la photo avec lui, et une fois que j'ai fait la photo, il s'est mis à pleurer. Et je trouvais ça bizarre, parce que moi je pensais que la photo ne lui plaisait pas. Je lui ai dit, écoutez, on peut la refaire, c'est pas la peine de vous mettre dans cet état-là. Il m'a dit, non, je pleure, j'ai les larmes aux yeux, parce que vous êtes le comédien préféré de ma fille, qui est au collège. Et il me raconte l'histoire de sa fille. Alors sa fille, écoutez bien, c'était une fille qui était un peu physiquement forte, un peu enrobée. Et un jour, dans un cours de gym, il faisait du trampoline. Et en faisant du trampoline, en courant, tout ça, enfin, franchement, quand on court, on sue, elle a eu de la sueur entre les fesses. Et là, il y a un malin, un petit con, on peut l'appeler petit con, dans sa classe, qui l'a prise en photo et qui a affiché ça sur les réseaux sur Facebook. C'est-à-dire que le lendemain matin, quand elle arrivait à l'école, tout le monde l'appelait « scie du cul » et elle ne savait pas, elle ne comprenait pas au départ. Et c'est son ami qui lui a montré la photo qui tournait sur elle. Donc l'après-midi, elle est rentrée chez elle, elle a sauté par la fenêtre pour en finir avec sa vie. Et son papa me raconte ça en me disant malheureusement, il me dit vraiment malheureusement, elle n'est pas décédée, elle est tétraplégique aujourd'hui. Elle boit et elle mange grâce à une paille, elle est bloquée dans un fauteuil, tout ça à cause d'un petit con qui pensait que c'était marrant de se moquer de quelqu'un en faisant une photo comme ça. Et donc quand il m'a raconté cette histoire, qui n'est autre que du harcèlement, harcèlement scolaire, j'ai fait une petite recherche en me disant, mais c'est pas possible, il y a autant de... Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de harcèlement scolaire en France, dans nos écoles. Et j'ai d'abord écrit la fin de mon spectacle, avant d'écrire tout mon spectacle. Je me suis dit, Boudère, toi, les jeunes, ils t'aiment bien, ceux qui sont à l'école, ils regardent le loulou, et puis ils aiment bien quand tu racontes des blagues, les parents t'aiment bien, les grands-parents t'aiment bien, eh bien, peut-être de parler d'un thème qui est universel et surtout, essayer de faire passer des messages pour que cela cesse, pour que l'harcèlement scolaire, il s'arrête, quoi. Donc, j'ai d'abord écrit la fin du spectacle qui n'est pas une fin drôle, dans laquelle j'explique pendant 2-3 minutes, de façon très touchante et émotionnelle, le harcèlement scolaire. Et je me suis dit, bon, comme je suis un humoriste, je suis là pour faire rire les gens. Donc avant d'arriver à ce thème-là, je vais raconter mon école, l'école de mon fils, le carnet de correspondance, les notes, la triche, les fournitures scolaires, de façon très drôle et légère, que tout le monde rit et qu'à la fin, on réfléchit un peu. Voilà.
Ok. Bonjour. Moi, je voulais savoir quel est votre regard sur le système scolaire actuel et que souhaiteriez-vous améliorer ?
Le système scolaire, je l'ai un peu dit un peu partout. Moi, aujourd'hui, en tant que papa, je trouve que... Alors, c'est un système... Le système scolaire actuel était peut-être adapté et adaptable pour une époque. Après, ça ne regarde que moi. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un élève ne peut pas rester à l'école de 8h du matin à 18h. C'est pas possible. Et la première question qu'on lui pose quand il rentre à la maison... Est-ce que tu as des devoirs ? Donc, il continue à avoir du travail à la maison. Moi, je pense qu'il faudrait avoir école de 9h à 13h et l'après-midi, de 14h à 17h, avoir des activités culturelles, sportives, du théâtre, des trucs un peu importants aussi. Hein. Alors ça, par contre, ça demanderait de réduire les vacances, parce que c'est vrai que moi... Quand vous allez arriver dans le monde adulte, le monde du travail, vous n'allez pas avoir 2 mois de vacances en juillet et août, vous n'allez pas avoir 15 jours de vacances tous les un mois et demi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de vacances, et ça ne vous prépare pas beaucoup à la vie de plus tard, parce que dans la vie de plus tard, vous n'allez pas avoir autant de vacances que ça. Après, ça n'engage que moi, hein, ce n'était pas la bonne solution. Moi, je n'ai pas les solutions, parce qu'on vote pour des gens qui, eux, doivent apporter des solutions. C'est pas moi un humoriste qui va vous dire ce qu'il faut faire, surtout aujourd'hui, maintenant que c'est, moi, je suis passé par l'école. Donc, moi je pense que il y a une surcharge. C'est très compliqué de l'école à 8h du matin. On a tous connu après la cantine le coup de barre. Le coup de barre de 13h ou 14h, quand le prof nous parle et que nous, on a envie de dormir, c'est tout. Parce qu'on vient de manger, puis il y a la sieste qui arrive. Donc c'est compliqué. Moi, je pense que même au point de vue de concentration, c'est pas facile. Après, bon, ça n'engage que moi.
Vous dites que l'école, ça reste un défi permanent. Vous entendez quoi par là ?
Pardon ?
Vous dites que l'école, ça reste un défi permanent. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Bah, cette course aux notes, on est toujours là à essayer d'avoir des bonnes notes, à essayer d'avoir la meilleure note de la classe. au lieu de se concentrer sur l'apprentissage. On va à l'école, c'est pour apprendre des choses, pas pour avoir la course aux notes. Moi, je sais que quand j'étais jeune, on me bassinait pour lire des livres. Je les lisais sans les lire, juste pour avoir une bonne note. Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. La même lecture que je... Les mêmes livres qu'on m'imposait quand j'étais à l'école, aujourd'hui, je les découvre. Et je m'aperçois que je suis passé à côté de choses exceptionnelles. Parce que la lecture me permet d'avoir un vocabulaire plus élargi. Ça me permet de pouvoir tenir des discussions avec des mots que je connais. Et que ne pas être quand t'es dans le... En gros, wesh... Alors ça c'est bien aussi d'avoir ce petit vocabulaire-là, mais quand plus vous allez grandir, plus vous allez vous asseoir à des tables, ou même discuter avec des gens, ou il faut quand même avoir du verbe, avoir de... Et c'est pour ça que la lecture, c'est très très important. Ça vous permet de lire, ça vous permet de savoir écrire, de savoir vous exprimer. Donc moi c'est ça qui me dérangeait un peu quand j'étais à l'école, j'apprenais pour avoir de bonnes notes, c'est pas pour apprendre.
D'accord. Et quelles sont les différences que vous voyez entre l'école de votre fils et l'école que vous avez vécue ?
Bah, la différence, c'est la différence d'outils. Moi, je vois les outils que vous aviez. Nous, avant, on avait un ordinateur pour toute la classe. Utilisé par toute la classe. Et souvent, on avait une imprimante. Il fallait avoir des cartouches pour imprimer. Quand il fallait faire un exposé, par exemple, je ne sais pas moi, un exposé sur... sur Louis XIV, il fallait aller chez le marchand de journaux, celui qui vend des journaux, acheter des petits magazines d'histoire, découper la photo de Louis XVI, de Louis XIV, la mettre sur une page double, sur une feuille double grand carreau, écrire en dessous tous les trucs qu'on avait appris sur Louis XIV, et faire un exposé devant sa classe. Aujourd'hui, en un clic, vous avez toute la vie de Louis XIV. Et ça, c'est vrai que ça change plein de choses.
Ok. Dans votre spectacle, il est question de harcèlement. En avez-vous subi vous-même? Et si oui, de quel type?
Alors, moi, j'ai jamais subi d'harcèlement scolaire. Parce que j'ai eu cette force d'être justement... j'ai tout de suite compris que j'étais drôle. Que j'étais... Donc, quand on est drôle et qu'on fait des blagues, tout le monde veut être votre copain. Donc, moi, j'avais cette chance-là d'être apprécié de tout le monde. Je combattais le harcèlement par des vannes. Quand quelqu'un se moquait de moi, forcément, moi derrière, pendant une heure, je ne lâchais pas. Donc, je suis conscient de ce don que j'ai eu, comme je racontais au début, là, le don de ce qu'on appelle la répartie, d'avoir de la répartie, d'être toujours sur le qui-vive de vannes. Alors, c'est vrai que ça a agacé mes professeurs, mais aujourd'hui, avec du recul, je faisais ça peut-être aussi pour être accepté des autres. Parce que je me suis dit, moi, j'ai un physique, moi, mon physique, il me plaît. C'est déjà le reste, ça plaît pas aux autres, je m'en fous. Mais c'est vrai que, comme on est que dans le jugement, lui, il est gros, lui, il est grand, lui, il est petit, lui, il est roux, lui, il est blond, lui, il est je sais pas quoi. Donc, forcément, il fallait que je comble ça par des vannes et par des rires. Donc, j'ai été tout de suite... le copain qu'il fallait avoir dans la classe, le copain qu'il fallait avoir dans son anniversaire, si on voulait passer un bon anniversaire. Et donc voilà. Mais après, quand j'ai été éducateur, j'ai vu ce que c'était que le harcèlement sur d'autres gens. J'ai vu ce que ça procurait, j'ai vu ce que ça faisait. Aujourd'hui, quand on lit certains faits divers, on comprend que c'est quand même très très grave et qu'il y a plein de choses à changer. Souvent, j'interviens dans les écoles pour parler de ça, pour parler du harcèlement. Je fais ce qu'on appelle des conférences. Alors, les conférences, ce n'est pas des spectacles. J'arrive dans la classe, je discute avec les élèves, je leur explique ce que c'est que le harcèlement, parce que des fois, on ne comprend pas ce que c'est que le harcèlement. Souvent, quand on attrape quelqu'un, on lui dit « c'est pas bien ce que tu fais », il dit « oh, mais je rigole ». Ah non, c'est pas drôle. Quand c'est répétitif, quand tous les jours vous faites allusion au physique de la personne, ou à la couleur, ou à ses origines, ben c'est du harcèlement. Quand on est tout. Dès lors que la personne ne rigole pas, ben c'est plus drôle, quoi. On rit avec les gens, on rit pas des gens. c'est une phrase qui est très importante. On rit avec la personne, on ne rit pas de la personne.
C'est une belle morale, Boudère. Parmi ceux qui font l'école au quotidien, ceux qui la font un peu tenir quand elle vacille, on va dire, il y a les profs. Est-ce que ton regard, il a changé sur eux depuis que tu es toi-même parent, par rapport à la vision que tu avais et que peut-être tu les écoutais un peu moins quand tu étais ado?
Ah oui, bien sûr. Mais ça, on s'aperçoit de ça que quand on est adulte, on ne peut pas demander à des enfants qui sont dans une classe de réfléchir comme des adultes. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Aujourd'hui, vous, dans la classe, tous les enfants, enfin tous les jeunes là qui m'écoutez, forcément, on va vous dire des choses de vieux, parce que vous allez dire « Ah, c'est bon ». Mais moi, j'étais à votre place, on me racontait des choses, mais il fallait que je les vive moi-même pour les comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que j'étais un casse-bonbon pour certains professeurs que j'avais. D'ailleurs, ils sont tous venus voir des spectacles, d'ailleurs, que j'ai rencontrés bien plus tard. Je regrette, bien sûr, parce que je me dis que si j'avais été assidu à l'école et que j'avais été... Peut-être que j'aurais fait peut-être autre chose. C'est vrai que quand on est jeune et qu'on est en cours, on perçoit le professeur comme une autorité. Mais on ne perçoit pas le professeur comme un être humain. Et c'est bizarre, hein. Mais nos professeurs, on ne les voit pas comme des êtres humains. Et quand je dis être humain, c'est-à-dire qu'on peut pas... On se dit, ouais, ça c'est une personne qui ne se vexera pas, qui ne sera pas fâchée, qui... Alors qu'un professeur, c'est un être humain qui peut se vexer quand vous l'écoutez pas ou quand vous chahutez énormément ou quand vous êtes irrespectueux avec lui. Ça reste quand même un être humain, il a un cœur, il a des sentiments, il a... Quand il sort de l'école, ben c'est un papa ou un mari ou un copain, ou... Ben ça reste un être humain, quoi. C'est un adulte. On peut vexer par notre comportement. On peut... Je peux vous donner plein d'exemples. Si vous levez dans la classe et que vous allez parler avec le professeur, et que le professeur ne vous regarde pas, il ne vous calcule pas, je peux vous dire que vous allez être dans une situation où vous allez vous dire, ben attends, sérieux lui, il ne m'écoute pas. Sauf que quand lui parle, personne l'écoute. Personne ne se met à la place du professeur qui est devant son tableau, qui le matin il arrive, il se réveille tôt pour venir, il a préparé sa séance de travail. Faut pas croire que quand vous avez une mauvaise note, faut pas croire que le professeur il est content. Ah non, c'est un échec pour le professeur aussi, parce qu'il se dit, attends, moi je suis là pour leur apprendre des choses et leur faire comprendre, mais là ils n'ont pas compris. Donc c'est de ma faute aussi. Donc les professeurs sont des êtres humains. Alors je vous apprends peut-être une chose. Hein. Ce ne sont pas des robots qui arrivent et qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas de... Ça leur fait de la peine de voir des élèves redoublés, comme ça leur fait de la peine de voir des élèves qui sont virés du cours, comme ça leur fait de la peine de voir des élèves qui sont virés de l'établissement. Il ne faut pas croire que quand un prof vous vire de la classe, il rentre chez lui, il met une croix en disant « Ah voilà, et demain je vais chez dans un autre ». Non, pas comme ça que ça se passe.
Ah, c'est bien qu'il l'entende de ta part. Et puis, c'est vrai qu'il y a une anecdote assez marquante sur ce que tu dis, c'est quand ces élèves-là nous croisent, par exemple, en train de faire nos courses ou en train d'avoir une activité autre, ils sont toujours des yeux grands ouverts, comme si on dormait dans nos classes et comme si on avait...
C'est ce que je disais, j'aimerais énormément que le théâtre soit obligatoire à l'école. Mais soit obligatoire pour les professeurs et pour les élèves. Parce qu'on a tous remarqué que quand, par exemple, il y a la kermesse de fin d'année, on arrive tous, les élèves, on arrive à la kermesse, on joue au foot avec des professeurs, on s'amuse avec eux, on rigole avec eux, et on les découvre, en fait. Et on se dit, ah, franchement, monsieur, moi, j'ai toujours pensé que vous étiez un con, mais en fait, vous n'êtes pas un con, vous êtes sympa. Donc on découvre nos professeurs, alors que si tout au long de l'année, on a un cours de théâtre dans lequel on doit jouer une scène de théâtre où le professeur n'est plus professeur, il est comédien avec les autres élèves, bah, ça crée aussi, déjà le professeur en lui-même, il apprend à... Parce que moi j'ai toujours dit, un professeur, il a le savoir. Il sait que 2 x 2, ça fait 4. Mais l'expliquer, ça c'est une autre paire de manches. Moi, j'ai eu des profs, moi, j'ai adoré la comptabilité. Alors, je peux vous dire que c'est une matière qui est très chiante. Hein. J'ai adoré la compta parce que j'ai eu un prof qui m'a fait adorer la compta. Parce qu'il parlait de manière drôle, il avait une manière d'expliquer qui était superbe. Et j'ai eu un prof d'anglais qui, dès qu'il ouvre la bouche, j'ai envie de dormir. C'est incroyable, hein. Sauf pour ici, mais c'est pas sa faute, hein, parce qu'il parlait très bien anglais. C'est juste qu'il avait... Pour expliquer, c'était compliqué. Et ça, le théâtre. Parler devant toute une assemblée, ça s'apprend au théâtre. Et les professeurs, moi je pense que les professeurs, tout comme les élèves, parce que vous aussi, tout au long de votre vie, vous allez devoir parler à une assemblée, alors c'est soit un oral, soit demain quand vous allez chercher du travail pour aller dans un entretien d'embauche, il faut savoir parler, il ne faut pas être timide, il faut savoir se vendre, vendre ses atouts, c'est pas facile. Donc oui, c'est important de recoller tout en gardant le respect envers le professeur, envers l'adulte, tout en gardant le respect de l'adulte envers les enfants. Mais je pense que il faut casser ce mur qui fait qu'on pense que les professeurs n'ont pas de cœur et que ce sont pas des êtres humains. Et ça s'appelle le respect envers les professeurs. Moi, ça me peine aujourd'hui, alors c'est vrai que je le dis dans mon spectacle, mais ça me fait mal au cœur de dire un fait divers où il y a un élève qui a tapé son professeur. Nous, il n'y a jamais eu ça. Nous, on n'était pas irrespectueux, on était chahuteurs, on faisait des vannes à longueur de journée, ça pouvait être chiant. Et quand le prof disait, bon, allez, ça suffit, bon, ben, ça suffit. Et je peux vous dire que dans ma classe, moi-même, on était des teignes. C'était très compliqué. C'était dans un quartier, dans une cité, quartier populaire. Mais on n'est jamais allé au point d'attendre le professeur à la sortie ou de se lever, de lui insulter, de lui parler comme si on parlait à un mec de notre âge ou faire des blagues en mettant des punaises sur sa chaise. Non, on n'a jamais fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce respect mutuel envers les jeunes et les professeurs, ça s'est perdu. C'est bien dommage.
D'accord. Et comment on doit percevoir votre titre? Vous dites « à l'école ». Comment on doit le comprendre?
Pardon, j'ai pas entendu.
Vous avez dit... votre titre, c'est « à l'école ». Et nous, en tant qu'élèves, oui. On doit le comprendre comment?
Non, le titre, c'est « à l'école ». C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est l'école. Ah. Tout le monde parle de l'école. Tout le monde sait ce que c'est qu'une école, mais tout le monde voit l'école comme selon son champ de vision. Donc voilà, si vous venez voir mon spectacle, vous allez rire parce que ça va vous rappeler des souvenirs que vous vivez actuellement, que vous avez vécu. Ça commence, je parle de la maternelle, je parle de la primaire, après je parle du collège. Donc forcément, vous allez vous y retrouver. Je parle des fans de La Fontaine, je parle de plein de choses.
Ok. Pourquoi donner des cours particuliers à votre fils?
Alors, c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, je me suis retrouvé comme tous les parents avec un enfant à la maison et qui avait des devoirs à faire. Et forcément, bon, c'est vrai que si vous posez des questions aux parents qui ont vécu le Covid avec vous, on a tous dit à un moment donné, franchement, je ne sais pas comment ils font les professeurs pour les supporter toute l'année. Moi, bon, il est là depuis 2 heures, j'ai envie de l'étrangler, il ne comprend rien ce que je dis. Donc c'est vrai, on s'est tous dit, bah, franchement, les professeurs, bravo, hein, parce que toute l'année, vous êtes avec eux. Nous, on est avec eux là, on est enfermés, confinés. C'est pas facile de leur expliquer. Pour moi, j'ai la chance. À ce moment-là, mon fils était en CE2. Donc, l'idée, elle est née comme ça. J'ai dit à mon fils, je suis sûr qu'il y a des parents qui vont galérer pour faire le devoir. Allez, on va faire des vidéos et on va en rire.
Mais est-ce que votre fils, c'est un bon élève ou il a des difficultés ou juste il n'a pas envie de travailler?
Mon fils, il a 14 ans. Il passe son brevet. Il est comme tous les élèves de 14 ans. Il faut toujours être derrière. Il a une flemme qui vient de... Je crois que c'est l'air. L'air qu'on respire, c'est ça qui vous donne la flemme. Il a une flemme extraordinaire. Donc voilà. Et quand il, ce qui est vraiment frustrant, c'est que quand il s'y met sérieusement, il est le meilleur de son école. Pas de sa classe, de l'école. Ça, c'est ce qu'a dit la professeure principale. Elle dit, dès qu'il est dedans, bah, il a 20 sur des trucs hyper compliqués en techno, en sciences naturelles. Mais après, faut qu'il veuille. Et c'est vrai qu'en troisième, on le barate. C'est vrai qu'on lui dit déjà, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Alors que quand on a 14 ans, bah, généralement, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire plus tard. Moi, il m'a dit, papa, je crois que j'ai envie d'être chirurgien. Bah, je lui dis, j'espère que je passerai jamais sur la table d'opération quand c'est pour le chirurgien. Parce que j'ai vu tes notes en maths, là. Si tu me vois à l'hôpital, ne me touche pas. Non, mais façon de parler, mais c'est parce qu'aujourd'hui, à 14 ans, on a envie de changer de métier, on a envie de faire plein de choses. Aujourd'hui, il y a des métiers qui viennent de se créer, comme des métiers... moi, je suis contre, mais on peut plus... Il faut vivre avec ça. YouTubeur, c'est devenu un métier. Malheureusement, tous les jeunes veulent devenir YouTubeurs aujourd'hui. Tous, ils veulent être TikTokers, tous, ils veulent être gamers, tous, ils veulent être je sais pas quoi. C'est des métiers, nous, ça nous dépasse en tant que parents, parce qu'on n'a pas... On n'a pas ce truc-là, on ne sait pas ce que ça veut dire, déjà. YouTubeurs, se filmer en permanence, ou être sur Snapchat... C'est vrai que nous, les parents, aujourd'hui, on a une discussion qui est compliquée avec vous, parce que vous, vous nous contrez en nous disant « Ouais, mais t'as vu, l'autre, elle a fait du Snapchat sur ses shampoings, et elle gagne 200 000 euros par mois. » Oui, bon, d'accord. Ils sont pas 1000, hein. Et il y a l'envers du décor. Donc voilà. Mais je pense que... Moi, j'ai hâte qu'un jour, il se réveille, il me dit « Papa, ça, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. »
Mais il vous l'a pas déjà dit que c'était chirurgien? Ou c'était il y a longtemps?
Pardon?
Il vous a pas déjà dit que le métier qu'il vous voudrait faire, c'était chirurgien? Ou c'était il y a un petit moment déjà?
Oui, mais ça, il a dit ça le lendemain, il voulait être je sais pas quoi, là. Danseur aquatique. Donc il a changé, toutes les semaines il change. Je lui dis, à force de changer de métier comme ça, bah, tu vas finir chez Pôle emploi à trouver des métiers aux gens.
Allez, une dernière.
Une dernière question. Oui.
Alors j'avais vu une rumeur qui dit que vous avez failli rentrer au PSG. Vous pouvez nous la raconter ou...
Ah, ça c'est vrai. Alors moi, l'un de mes premiers rêves, c'était d'être footballeur. J'ai joué au foot toute ma vie, jusqu'à encore là, il n'y a pas longtemps. Et quand j'étais jeune, j'étais très très bon au foot. Mais vraiment très bon. Et c'était mon rêve de devenir footballeur. Mais j'étais très fort. Mais vraiment, hein, je vous dis la vérité, j'étais très fort. J'avais un défaut, j'étais trop petit. J'étais trop petit par rapport à mon âge. À 13 ans, 14 ans, je faisais 1m40, je crois. J'étais pas très grand, mais j'étais très technique, mais j'étais frêle. Physiquement, je jouais avec des mecs qui faisaient deux têtes de plus que moi. Les gens de mon âge étaient plus grands que moi. Et donc, j'étais rarement sélectionné dans le club de mon quartier. Et j'avais un entraîneur qui s'appelait Pierre, qui lui s'occupait des enfants de 8 ans. Et il me disait, écoute, pour pas que tu restes dans le quartier à rien faire tout seul le week-end, je te prends avec moi et tu joueras avec ceux qui ont 8 ans. Et moi, j'en avais 13. Et j'avais presque la même taille qu'eux. Et j'étais très fort. Forcément, j'avais 4 ans plus qu'eux. Et un jour, on est parti faire un tournoi, j'ai fini meilleur buteur. J'étais meilleur joueur, les parents qui étaient là, ils étaient... Mais j'avais joué ce tournoi sous fausse licence. J'avais pas une vraie licence. Donc voilà, j'avais triché sur mon âge. Et ce jour-là, il y avait un recruteur du PSG qui m'a vu jouer. Et lui, il pensait que j'avais 8 ans. Donc il est venu, il m'a dit, écoute, mon petit garçon, t'es tellement fort, je vais appeler tes parents pour te ramener au centre de formation du PSG. Attendez, c'était en 86, hein.
Ah oui.
Et si j'avais 8 ans, c'était en 90, 91. Est-ce que je me rends? Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'étais tellement content que j'ai dit à mon entraîneur, j'ai dit, ça y est, il y a le petit PSG, il veut me recruter. Et après, il m'a dit, mais est-ce que tu lui as dit ton vrai âge ? J'ai dit non. Donc, il m'a dit, va lui dire ton vrai âge, parce que là... Donc, j'ai été voir le recruteur du PSG pour lui dire, écoutez, monsieur, j'ai pas 8 ans, j'ai 13 ans. Et il m'a dit, ah, bah non, 13 ans, non, t'es trop petit, on pourra pas te prendre. Donc, ça a bloqué mon rêve. Mais j'ai failli jouer au PSG, ouais.
Ben, je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir répondu avec autant de précision.
Merci. Merci beaucoup.
On espère que vous allez faire une bonne tournée, que beaucoup de places vont se vendre. En tout cas, ça a l'air vraiment d'être un spectacle très intéressant.
Ah, ben, j'espère que vous serez dans ma salle et qu'on pourra faire une belle photo de Sanson.
C'est loin, non ?
Bon, ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.